10h22 dans le Point de Max à Boulevard 102.1, 10h23 à l'instant parce que j'aime être excessivement précis dans les données que je vous transmets. 88-971-1021, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Notamment, si vous avez des questions, j'ai l'impression que sur ce dossier-là, on est plusieurs à avoir des questions parce qu'on vient tout mêler. Qui contrôle vraiment le détroit d'Ormuz? Est-ce que Donald Trump veut qu'il soit ouvert ou fermé? Parce qu'on se souvient, là, il y a quelques semaines, Donald Trump écrivait sur Truth Social aux Iraniens d'ouvrir le fucking détroit d'Ormuz, open the fucking strait. Et là, quand les Iraniens ont finalement refermé le détroit d'Ormuz en fin de semaine, Trump leur a dit « Merci, vous nous rendez service sans vous en rendre compte », puis il se positionne en grand gagnant que le détroit d'Ormuz soit refermé, alors que vendredi, il était tout content d'annoncer que le détroit était rouvert. Bref, on est parfois bien mêlés dans tout ça. Et pour nous démêler, Georges Mercier, analyste politique. Salut, Georges.
Salut, Max.
Bon, je le dis un petit peu, là. Vendredi, réouverture du détroit d'Ormuz. Samedi, refermeture du détroit d'Ormuz. Trump dit que de toute façon, le détroit était déjà fermé par le blocus des États-Unis puis que l'Iran aide les États-Unis sans le savoir. Écoute, explique-nous, s'il te plaît.
Je suis confuse.
Écoutez, c'est vrai que c'est bien mêlant. En ce moment, il y a deux guerres que les États-Unis mènent contre l'Iran. Il y a une guerre militaire où on emploie des missiles, des avions, on frappe des cibles au sol, on fait exploser des trucs. Il y a une guerre économique où ce qu'on tente de faire, c'est avec beaucoup de sanctions, en limitant ce que les banques iraniennes peuvent faire, en limitant ce que les dirigeants iraniens peuvent avoir comme actifs à l'international, où on tente d'étrangler économiquement ce régime-là. Donc, on joue sur deux fronts. L'ouverture du détroit d'Ormuz, c'est utile pour l'énergie mondiale parce que les alliés des Américains pourraient, s'il est bien ouvert, exporter du pétrole, aller importer du pétrole de là-bas. Mais la fermeture du détroit, ça joue dans la guerre économique des Américains parce que l'idée ici, c'est d'empêcher les Iraniens de vendre de l'énergie, donc d'engranger des revenus et de se maintenir au pouvoir. C'est pour ça qu'on a comme deux fermetures. Il y a celle que nous annoncent les Iraniens où ils menacent essentiellement les navires. Ils disent, si vous passez, on va vous bombarder ou on va mettre des mines, vos bateaux vont exploser, donc les gens ne passent plus. Mais au même moment, les Américains ont annoncé un blocus, un peu à l'extérieur du détroit, pour saisir les navires iraniens. Parce qu'au départ, il y avait un paradoxe. C'est que oui, le détroit était fermé pour les alliés des États-Unis, mais il n'a jamais été fermé pour les alliés de l'Iran. Et ça créait une situation de deux poids, deux mesures, où les Iraniens parvenaient à faire super mal à l'économie mondiale, mais eux-mêmes ne souffraient pas trop. Donc, les Américains ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont dit, le détroit, soyez ouvert pour tout le monde, soyez fermé pour tout le monde. Et c'est un peu ça que Donald Trump voulait dire. C'est pas l'homme le plus cohérent. Mais dans son message que tu citais, Max, il disait, écoutez, refermez-le, vous faites notre job. Vous pouvez pas plus exporter que nous, on ne peut exporter.
Mais on s'entend que peu importe les raisons, puis pour qui c'est bon, puis c'est pas bon, pour le prix de l'essence que nous autres, on va payer, c'est loin d'être une bonne nouvelle.
Non. Ah, mais c'est une terrible nouvelle, d'autant plus que là, on est rendu à un point où le détroit a été fermé depuis si longtemps qu'on assiste à des pénuries dans certaines régions du monde. En Europe, on annonce peut-être des pénuries de carburant d'avion. En Asie, on commence à penser à des plans pour rationner le pétrole parce qu'il n'y en a à peu près plus qui arrivent. Donc, les cours de l'énergie ne redescendront pas rapidement, même si on devait complètement leur ouvrir demain. Là, on s'enligne pour une crise à plus long terme.
Il y a une autre affaire qu'on semble ne pas comprendre parfois. Pourquoi les États-Unis disent qu'ils négocient avec l'Iran, mais l'Iran dit qu'ils ne négocient pas? Tu sais, ce que je disais à Kat avant la pause et avant qu'on te parle, c'est on dirait que les États-Unis parlent vraiment à du monde, mais à qui ils parlent?
C'est ça l'affaire. À qui ils parlent? La vraie question, c'est qui est-ce qui dirige l'Iran en ce moment? Puis le problème en Iran, c'est que c'est un système, un gouvernement ultra compliqué où vous avez différents groupes qui sont en lutte pour le pouvoir. Et ce système-là, il fonctionnait tant qu'on avait à la tête du pays celui qu'on appelle le guide suprême, qui était Ali Khamenei. Et ce guide suprême-là parvenait tant bien que mal à imposer une volonté à peu près claire à tout le monde. Au début de la guerre, on l'a assassiné, on l'aurait remplacé par son fils. Le problème, c'est que le fils, on ne sait même pas s'il sait lui-même qu'il est guide suprême, parce que certains rapports nous disent qu'il est dans un coma. Et ce que ça donne comme résultat, c'est que les différentes factions en Iran qui sont en lutte pour le pouvoir, ben elles sont pas d'accord sur la marche à suivre. Puis là, on peut distinguer deux groupes. Vous avez d'un côté des genres de modérés, plus réformistes, des gens qui disent l'essentiel, là, c'est d'améliorer l'économie iranienne, d'améliorer les conditions de vie de l'Iran, puis si pour faire ça, on n'a pas le choix de donner des choses aux Occidentaux, ben on va leur donner. Okay? C'est probablement avec ces gens-là que négocient les Américains. C'est pour ça que Donald Trump est optimiste parfois, parce que eux sont ouverts à faire des compromis. Mais de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution, c'est un groupe paramilitaire d'élite composé, que je disais le mot, de fanatiques religieux qui pensent vraiment que non, la République islamique d'Iran a une mission religieuse à réaliser et qu'en ce moment, on ne doit pas faire de concessions avec les États-Unis. Le gros problème, c'est que les gardiens de la révolution, c'est eux qui ont le monopole des armes. Okay? C'est eux qui ont la force physique en Iran en ce moment. Et donc, ils n'arrêtent pas de dire aux modérés, vos compromis, on n'en veut pas. Puis si tu veux une preuve de ça, c'était assez clair dans les derniers jours, celui qui a annoncé la réouverture du Détroit, c'était le ministre des Affaires étrangères. Cet homme-là, c'est un négociateur de longue date qui a une expérience de l'Occident. Il annonce ça sur les réseaux sociaux et tout de suite après, ce sont des représentants des gardiens de la Révolution qui lui disent « Tu ne devrais pas t'exprimer comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu vas trop loin ». Puis en fin de semaine, lorsque les Iraniens tirent sur des navires français et britanniques, ce sont les gardiens de la Révolution qui l'ont fait. Donc essentiellement, il y a bel et bien un genre de changement de régime en Iran dans la mesure où il n'y a juste plus de régime clair. Et le gros problème pour les Américains, c'est que si on négocie avec quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, bien, cette personne-là peut nous promettre tout l'or du monde, mais au final, c'est celui qui a vraiment le pouvoir avec qui on devrait négocier.
Kat l'imaginait super bien tantôt. Elle disait, moi, Max, je peux bien négocier avec toi pour mon prochain contrat ici chez Leclerc Communication.
Ben là. Oui, je parle avec quelqu'un dans la boîte, je parle avec quelqu'un dans l'entreprise.
Ça donnera pas grand-chose, c'est un peu ça.
C'est pas toi qui signes le chèque.
Ben, en fait c'est exactement ça. Mais dans ce cas de figure-là, Max, si tu voulais pas offrir un contrat à Catherine, ben, tu pourrais aller chercher plus de pouvoir. Puis quand tu auras eu assez de pouvoir, tu pourras dire à ton boss, ben, soit t'apprends, soit je m'en vais.
Et moi, je sais pas si je peux te poser cette question-là. Georges, je recherchais la source en fin de semaine, mais je voyais dans des analystes qui regardaient ça puis qui disaient qu'au final, peut-être que la sortie de crise possible qui va se dessiner, c'est quelque chose qui ressemble à un scénario qui avait été élaboré par Barack Obama dans le passé. Ou est-ce qu'on va y aller vers une entente de la part de l'Iran pour cesser le développement du nucléaire en échange d'allègements économiques et tout ça? Donc, au final, tout ça pour ça.
Mais c'est un peu le deal qui est présenté aux Iraniens. Avec Barack Obama, on avait limité la capacité des Iraniens à enrichir de l'uranium pour une certaine période. Là, la Maison-Blanche voudrait une période plus longue, donc 20 ans. Le gros problème en ce moment, c'est que ça fait plusieurs semaines de conflit. Donald Trump ne peut pas sortir de ça avec une entente qui serait essentiellement celle d'Obama avec un petit plus. Parce que là, ce serait une défaite beaucoup trop significative. D'ailleurs, je rappellerai qu'il y a des soldats américains qui sont morts dans cette guerre-là. Donc, il y a des vies américaines qui ont été perdues. Les coûts sont astronomiques. On parle de dizaines de milliards de dollars. Ça coûte une fortune comme opération. Il ne peut pas se contenter de ça. Ce qui risque de se produire, plutôt, c'est un cessez-le-feu qui dure. Là, le cessez-le-feu actuel, il expire mercredi. On ne sait pas si les Américains veulent relancer les hostilités. Peut-être qu'on veut juste avoir un nouveau statu quo où on a un régime affaibli, beaucoup d'installations détruites, mais pas d'accord à long terme satisfaisant pour toutes les parties.
Pour terminer sur ce dossier-là, Georges, Trump dit espérer que l'Iran va accepter un deal. Sinon, et là, je le cite là, en traduisant, mais les États-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts d'Iran. Fait qu'il revient avec ces menaces-là et dit que ce sera un honneur pour lui de faire ce qui doit être fait, ce qui aurait dû être fait à l'Iran par d'autres présidents des 47 dernières années. Ces grandes menaces-là de Trump, est-ce qu'ils ont encore autant de poids que par le passé quand on connaît sa tendance à se retirer dernière minute puis à vouloir éviter d'en arriver à l'exécution de ces menaces-là?
Il y a un article qui était paru récemment dans le Wall Street Journal qui était fascinant parce qu'on dit souvent Donald Trump, he always chickens out. Il fait des grandes menaces puis il rétropédale. Le problème, c'est qu'en réalité, dans 50% des cas, il les met en exécution, ces menaces. Donc, c'est pas vrai qu'il se rétropédale toujours. Parfois, il agit. La question, c'est est-ce qu'il agirait sur cette menace-là? Le gros problème, c'est que dans une guerre, pour qu'une menace soit convaincante, pour qu'elle ait un effet, il faut qu'elle soit mise en application. Donc, à un moment où s'il n'a pas d'accord, Donald Trump, les bottines vont devoir suivre les babines. Parce que sinon, il perdra toute crédibilité. Moi, je ne pense pas, puis on s'en était parlé il y a quelques semaines, il n'y a pas un monde possible où l'armée américaine accepte de détruire toutes les installations civiles d'un pays. Mais ce qu'il pourrait faire, c'est s'attaquer à un pont, une centrale, si elle est liée à un site de production d'armement, avec une justification militaire derrière. Mais oui, on pourrait avoir une action kinétique plus importante bientôt.
Autre sujet, Georges Mercier, dans une vidéo publiée en fin de semaine, Mark Carney lance que les liens étroits du Canada avec les États-Unis sont maintenant des faiblesses. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette sortie-là de notre premier ministre? C'est quoi son but avec ça?
Bien, il y a une manière super cynique de voir la chose. Okay? Je pense que c'est très clair en politique canadienne que si ça n'avait été de Donald Trump et des menaces américaines, les libéraux ne seraient plus au pouvoir aujourd'hui. Le Parti libéral de Mark Carney actuel a un intérêt objectif à ce que dans la tête du Canadien moyen, il y ait une menace. C'est en grande partie cette menace-là qui explique la Carney mania et la chute des conservateurs. Le problème d'une menace, c'est que si on veut qu'elle nous reste en tête, faut qu'on la subisse, faut qu'on en entende parler. Et tu vous remarquerez qu'on en parlait de moins en moins quand même de la crise avec les Américains dans les derniers mois. Peut-être que Mark Carney nous sort ce vidéo-là pour rappeler aux Québécois, regardez pourquoi vous, aux Québécois, aux Canadiens, regardez pourquoi vous m'aimez, regardez pourquoi je suis votre sauveur en ce moment, parce que le péril est aux portes de votre demeure. Moi, la vidéo qu'il a publiée, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser au point de presse de François Legault durant la pandémie de COVID.
C'est vrai, hein?
Où on pouvait pas ignorer qu'il était là, qu'il était aux commandes. Donc, on dirait que Mark Carney veut revenir à l'avant-plan. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on a absolument rien appris dans la vidéo. Ouais. Tout ce qu'il nous a dit, on le savait déjà. Tout ce qu'il nous promet, on les a déjà entendus, ces promesses-là. Donc, s'il continue comme ça, moi, je pense que c'est davantage pour garder sa mainmise sur l'électorat canadien, davantage que pour vraiment nous accompagner dans la crise.
Parce qu'il y en a qui voyaient là peut-être une préparation pour la population, un peu en disant... regarde, il y a un deal qui va s'en venir avec les États-Unis. Là, on renégocie la CM. Ça va être décevant, mais Mark Carney met un petit peu la table à ce que ce soit décevant. Puis quand il arrive avec un deal, on soit pas tant déçu que ça, finalement.
Tu vois, moi, je voyais ça aussi comme je mets la table au fait que j'ai invité des gens de partout sur la planète à venir à Toronto à l'automne pour qu'on parle de deal économique pour rendre le Canada attrayant. Fait que je trouvais que c'était dans cette lignée-là, moi aussi, là.
C'est de la communication politique, je suis certaine. Je rappellerai pour les auditeurs que ce fameux deal-là avec les Américains, on l'attend depuis un sacré bout maintenant. Hein. Ouais. Déjà l'été dernier, j'en parlais dans les médias, on se demandait est-ce qu'on va nous annoncer quelque chose bientôt. L'entente, elle n'est pas venue. Donc à ce compte-là, c'est pas encore un échec, mais c'est pas un succès retentissant de la part du gouvernement fédéral. Donc peut-être que oui, Max, t'as raison. En fait, les Américains nous ont dit qu'on n'aurait pas du tout le deal qu'on espérait, ce n'est pas encore public. Forcément, le gouvernement a accès à des informations auxquelles on n'a pas accès. Et donc, il met la table à la gestion de son échec. En l'occurrence, si échec il y a. On verra ce que ça va donner, mais ça va se faire cet été.
Georges, merci, analyste politique international. Un gros merci, toujours le fun.
Hey, merci à vous. Bonne journée.
Salut, à la prochaine. Au retour de la pause... Kat, on va parler d'un sujet qui on se dit, est lourd. Là, je pense qu'on a ceux qui l'ont vu passer dans l'actualité en fin de semaine ont comme fait OK, ça c'est le pire de l'homme qu'on peut avoir de l'homme. Là.
Ouais, les chiffres, moi, m'ont glacé le sang, je te dirais.
On parle d'Académie du viol.
Oui.
Et on va aller dans les détails tantôt de ce que c'est, de ce que ça représente. Ça représente malheureusement beaucoup de monde, beaucoup trop de monde. Un concept qui n'a absolument aucun bon sens. Qu'on aurait... Tu sais, je pense que sans cette nouvelle-là en fin de semaine qui nous apprend l'existence de ça, on est bien du monde à avoir l'esprit assez bien tourné pour même pas... Ça a été imaginé avant que ça se pouvait, quelque chose comme ça.
Mais quand t'apprends qu'il y a eu 62 millions de visiteurs sur ce site-là en février, c'est extrêmement troublant.
Exact. On va aussi se parler dans un sujet un petit peu moins, j'allais dire lourd, mais il y en a qui trouvent ça tout aussi lourd. Le... changement de pouvoir à la CAQ avec les ministres qui vont rester là dans plusieurs cas. Je vais vous faire entendre des extraits de Christine Fréchette à Tout le monde en parle hier. Si on pouvait prendre l'intelligence artificielle et changer la voix de Christine Fréchette pour la voix de François Legault, là, on penserait vraiment que c'est François Legault. Les mêmes mots, les mêmes thèmes qui reviennent. Fait qu'est-ce que vraiment le changement à la CAQ avec Christine Fréchette...
Vous voulez du changement.
Ouais. Non, c'est... tout ce qui manquait dans cet extrait-là, elle n'a pas dit moyenne au bâton. Mais c'est à peu près la seule affaire qu'elle n'a pas dit que François Legault aurait dit. Puis d'après moi, on lui a dit de ne pas dire ça parce que ça nous rappelle trop François Legault. Mais moi, j'ai vu beaucoup de ressemblances pareilles. Bref, ces deux sujets-là s'en viennent après la pause dans le Point de Max à Boulevard. On revient.